Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Allez, trois films, mais deux chroniqueurs et demi aujourd'hui, et puis peut-être trois films plus un documentaire. Bref, tout est compliqué et nous allons y arriver, j'espère. Surtout que nous allons parvenir à vous captiver dans la passion et l'enthousiasme. Les chroniqueurs sont Marie-Noëlle Tranchant, bonjour.
Bonjour, Christophe.
Dominique Borde, bonjour.
Bonjour.
Et de loin par téléphone, Bernard Médioni, salut mon vieux.
Bonjour à tous et à tous nos auditeurs de quelques kilomètres.
Alors, nous vous disons ce que nous avons pensé en mal ou en bien de plusieurs films. Commençons par, si vous le voulez bien, Sidonie au Japon, avec l'immense et antipathique Isabelle Huppert, une autrice qui visite le Japon pour une tournée de signature. Elle rencontre son éditeur et curieusement son mari décédé. On se croirait dans un film japonais avec toute sa lenteur et ce côté très très travaillé dans tous les détails. On écoute la bande-annonce.
What's your reason for your trip?
They are republishing my first book.
Are you a writer?
Yes and no. Vous travaillez avec mon éditeur?
Je suis votre éditeur.
Ah! Je le fais mal, c'est ça?
No one can open the windows. That's normal for safety reasons.
Safety?
Très honoré de faire votre reconnaissance.
Vous ne serez jamais seul.
Pourquoi hésiter avant d'accepter votre invitation? C'est presque irréel pour moi d'être ici. Vous aurez des belles mains.
I'm telling you, the window is open.
That's impossible.
Qui êtes-vous?
Au Japon, ils vivent partout autour de nous.
Antoine, mais c'est vraiment toi.
Sidonie.
Vous croyez aux fantômes? Pourquoi tu es revenu?
Je ne suis pas revenu. Je suis jamais parti, Sidonie.
L'écriture, c'est ce qui reste quand on se retrouve sans rien. Je sais pas ce qui m'arrive.
Ne pleurez pas, Sidonie, ça.
Je suis heureuse de vous connaître.
Moi aussi. Au Japon, nous gardons nos sentiments pour nous.
J'avais peur, je crois, de l'inconnu.
Un peu un Lost in Translation féerique.
Oui, on peut y penser.
Dominique Borde.
Oui, après Depardieu, Isabelle Huppert donc va au pays du soleil levant, mais c'est très différent. Moi, ça m'a beaucoup plus plu que le Depardieu qui me paraissait très gratuit. Là, d'emblée, le film est empreint de sérénité. Les villes sont désertes ou presque, les intérieurs dépouillés, les autochtones silencieux et polis. Ici, tout est calme, tout est repos, tout est méditation. Et d'emblée, il y a une dimension métaphysique dans ce film. C'est ça qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, on lui dit à un moment, ici, le monde visible coexiste avec le monde invisible. Et le monde invisible, elle va le voir, puisque le fantôme de son mari disparu va faire son apparition. Et il se fait une place transparente dans le séjour d'Isabelle Huppert. Quant à elle, ben ça lui va bien parce qu'elle est toujours visiteuse en pays étranger et elle est à la fois présente avec un soupçon d'absence. Donc elle est très bien dans ce pays. Elle correspond bien à ce pays et au personnage. Pour une fois, j'ai
elle apprécié. Elle a cette distance. Ouais.
Je l'ai beaucoup plus appréciée que d'habitude. Et elle se fond un peu à l'environnement. Il y a des paysages magnifiques aussi. Des décors apaisants, toujours. Voilà. On est entre la vie et la mort, leur peau éternelle, et la vie qui se faufile comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé cette façon-là. Alors, on n'échappe pas aux cerisiers en fleurs. Bon, c'est le seul cliché.
Cette saison.
Voilà, cette saison, c'est le seul cliché qui est... Bon. Mais le reste, moi, m'a beaucoup plu, parce que on est vraiment dans l'apaisement et dans la réflexion. Voilà. Alors, moi, j'ai bien aimé Sidonie au Japon. J'aurais bien aimé l'accompagner au Japon, finalement.
Marie-Noëlle.
Oui, c'est un charme très fin, très subtil. Ça commence par l'étrangeté radicale du Japon. Mmh. Tout est différent, tout est lointain, distant, insalubre. Le fait de prendre ou non des bagages, le sac à main même, tout est
codifié.
Tout est codifié.
Absolument.
Et radicalement étranger. Et on reste constamment sur cette frontière extrêmement ténue entre l'étranger et l'étrangeté, le visible et l'invisible, en effet, comme on le disait, l'absence et la présence. C'est très prenant et envoûtant, mais d'une façon extrêmement... délicate, presque insensible, et on entre dans non pas l'épaisseur des choses, mais au contraire
la légèreté,
leur légèreté, leur transparence, finesse, leur transparence extrême, ouais. Et ça, c'est très, ça, il y a un charme étonnant. Les décors aussi, les hôtels successifs, mais quelque chose bouge et en même temps ne bouge pas. On est dans ces transformations silencieuses dont parle François Julien, qui s'est mis à propos de la Chine, mais c'est très extrême oriental, en fait.
On dirait un film japonais.
Oui.
Bon, alors nous passons au deuxième. Et plus c'est affinité. Alors ces deux couples, un quatuor de voisins, on est vraiment entre théâtre et cinéma. Unité de lieu, de temps d'action, avec Bernard Campan qui était pas tant, Isabelle Carré tellement juste. C'est un film beaucoup plus subtil qu'il paraît sur l'affiche. C'est Sophie et Xavier qui invitent leurs voisins du dessus, Alban et Adèle. Xavier Bernard Campan n'est pas très emballé par l'idée de ce dîner, car les voisins ont des bruits nocturnes libidineux qui le fâchent. Sophie et Isabelle Carré insistent pour que le dîner se passe autour d'un gigot de 7 heures. On écoute la bande-annonce.
Qu'est-ce que c'est pour qui ?
Mais on reçoit les voisins.
Les voisins ?
Bonsoir. Enfin,
tu ne vois aucun inconvénient à ce que j'aborde le sujet avec nos chers voisins ?
Ah non, hein. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est des boulettes de poulet à la balinaise, indonésien.
Si nos voisins mettaient la musique à fond à 4 heures du matin, ça ne gênerait pas de leur en parler.
Je fais une petite distinction entre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser la musique ?
Attention, hein, très aphrodisiaque aussi.
Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de jouir ?
Tu te rappelles ? On tenait simplement à s'excuser.
On est bien conscient qu'on doit vous embêter.
Quand on fait l'amour. Parce qu'il y a quand même des soirs, on fait trembler tous les meubles, nous.
Oh.
Si tu veux mon avis, c'est des exhibitionnistes. Les orgasmes atomiques, c'est pas forcément Adèle.
À tous les coups, c'est Caro.
Ouais. Et Caro ?
C'est une amie.
Oh, c'est quand t'as bien avec Santiago ?
Santiago.
Enfin, Caroline, Santiago, ou d'autres, hein, franchement.
Ou d'autres ? On pratique le sexe en groupe.
Chacun ses hobbies en même temps, hein. Moi, c'est la flûte.
Tout le monde aime le sexe, non ?
Toi, par exemple, ce que t'aimes, c'est qu'on te regarde marcher nu.
Non, tu regardes ma femme marcher nue ?
Oui, par la fenêtre du salon, là-bas, oui.
Est-ce que tu me regardes encore, toi ? Les couples ont besoin de se disputer.
Ta gueule avec tes consultations. Je vais te tuer !
Est-ce que tu peux être coincé du cul, Xavier ? Ma parole pète un coup !
La nuit ne fait que commencer.
Alors, on est très mal à l'aise au début par ce dîner qui commence pas très bien. On sait pas trop quoi penser. Et puis ça part en vrille. Alors, on l'a entendu dans la bande-annonce.
Mais bon, on a déjà un résumé du film.
Voilà. Bernard. Dominique, pardon.
Oui, de Bernard, pas du
Bernard.
Oui, comme vous l'avez dit, c'est du théâtre filmé. Presque tout se passe, 90% du film se passe dans cet appartement et dans le face-à-face de ces deux couples. Campan est très bon, Isabelle Carré toujours aussi, et les deux autres qui sont foquants, oui, parce qu'ils font des bruits en faisant l'amour, et surtout ils sont pour l'amour libre. Ils sont pour l'amour à plusieurs. Alors là,
Campan, sont des libertins.
Voilà, sont des libertins, ça s'appelle comme ça. Et Campan est foqué, alors il met un peu d'ironie, il met un petit peu de méchanceté, il est un petit peu à bout de nerfs tout de même. En même temps, leur couple à eux est un petit peu trop sage, il est un peu usé. Alors ça pourrait les réveiller, lui ça le dégoûte un peu, et puis finalement, il craque et il se fout à poil. Et c'est ce qu'on voit sur l'affiche d'ailleurs. Et il dit, bon, la soirée va commencer, et là, rupture de ton, on bifurque. Le film prend une autre dimension, beaucoup plus sage, c'est-à-dire que ce sera pas libidineux, ce sera une leçon de vie, c'est peut-être ce qu'ils nous disent, et on donne pas la conclusion, mais on peut dire que ça finit d'une façon très, très morale, où le couple normal va peut-être l'emporter sur le couple libidineux, et c'est tout le film repose sur la rupture de ton qu'on n'attend pas. On s'y attend pas, on se dit, bon, où ça va aller ? Bon, on va pas finir en partouze. Non, on finira pas en partouze, parce que le sentiment, l'affection va l'emporter sur le sexe. Et c'est ça, la morale de l'histoire.
Et c'est très très bien tricoté sur le plan narratif.
Oui,
parce
bien,
qu'on a la
tricoté.
Photo de Campan avec sa fille, on sait qu'elle vient tous les 15 jours, qu'elle avait oublié la clé. Et petit à petit, on a comme ça des trucs qui se brodent. Et sur le plan narratif, enfin, au bout d'un moment, c'est incroyable, parce qu'on va de ping, bing, bing, on va de, oui. De puis, coup de théâtre en coup de théâtre jusqu'au coup de théâtre final.
Voilà.
Donc c'est là où c'est très théâtral. Mmh. Marie-Noël.
Oui, c'est assez bien écrit, en effet. Il y avait avec de bonnes répliques et de bons comédiens pour les dire et les exprimer. Moi, j'ai bien aimé le personnage de Campan, en effet, qui a un côté, un personnage à la Bacri, complètement hypochondriaque, blasé de tout, dégoûté. Et en face de lui, espèce de coq arrogant, un pilote
de ligne.
Super content de lui, etc. Et tout ça se tisse. L'étoffe, en effet, est assez grossière au départ. C'est cette espèce de fond commun de la société actuelle où la jouissance sexuelle semble la mesure de toute chose. Et on est vraiment dans le... Vous disiez libertin, mais c'est des libertins grossiers d'aujourd'hui. Mmh. Tout est dans le quantitatif. Et le, alors, plus ça fait de bruit, plus dit, les sommiers grincent.
On dit le mot libertin parce qu'il est dit à un moment donné par la psychologue. Et regardez ce personnage de la psychologue qui a les cheveux longs au début et qui, au bout d'un moment, se met les cheveux en chignon. Mmh. Et là, elle prend une autorité de psychologue et on rentre dans une thérapie. Mmh. C'est pas mal du tout.
Oui, 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 il y a des, ça évolue bien, mais disons, au départ, tout est, c'est ça, cette atmosphère de jouissance sexuelle où tout est dans le quantitatif, le nombre d'accouplements, de copulations, le nombre de participants au partouze, le nombre, c'est ça qui est un marqueur d'accomplissement, à peu près comme d'accomplissement personnel, comme la Rolex est un marqueur d'accomplissement social. Quoi. Mmh. Donc, c'est, on est dans cette grossièreté-là et... peu à peu va en sortir quelque chose de plus fin, ça va se moudre, c'était oui, et c'est assez joliment fait. Alors on retrouve en effet les pulsions éternelles, la jalousie par exemple, dont on se croit libéré trop facilement, et puis les choses profondes, les sentiments profonds qui durent malgré tout, malgré l'usure, malgré l'ennui. Malgré...
Et la scène dans l'escalier, à côté de l'ascenseur, sur le pas de porte, là, il y a très peu de dialogue, il y a des regards entre les deux, c'est très beau ça.
Voilà, donc sous la grossièreté, oui, affleure...
Mort du chien. Et la mort du chien.
Ah, ça ne faut pas le dire.
Affleure des choses plus fines et plus tendres.
Bernard.
Oui, alors d'abord, moi, je préciserai une chose, c'est que c'est un remake. Hein. C'est un remake d'un film espagnol qui était sorti en 2020, qui s'appelait Sentimental, et qui était une comédie à quatre. Ici, on peut dire que, en effet, autant la première partie patine un petit peu, on craint quelque chose d'assez vulgaire, et finalement, il y a quelque chose qui l'emporte. Il y a d'abord l'interprétation, mes camarades l'ont dit, il y a une interprétation à la fois poivrée et nuancée, qui mérite des éloges appuyés, mes camarades ont cité Bernard Campan, Isabelle Carré, un petit coup de chapeau à Pablo Poli, qui est quand même assez remarquable en commandant de bord, très imbu de lui-même, et Julia Fort en docteur Waf-Waf, comme l'appelle Bernard Campan. Les dialogues arrivent en plus à susciter de nombreux esclaffements. Mmh. Alors, notamment lorsque le personnage de Bernard Campan utilise le mot exaction pour insister sur le fait qu'on peut employer des euphémismes, et là c'est pour l'euphémisme du mot massacre, ou quand il joue sur la polysémie du mot toucher. Et là, ce sont deux passages qui ont un sérieux et un à-propos désopilant, un sérieux de la façon dont c'est dit de manière pince sans rire par Bernard Campan, et l'à-propos de la situation. Enfin, les dialogues font souvent mouche. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que de façon éloquente et spirituelle, le propos évoque le glissement d'un embarras individuel qu'ils ont tous au début de cette rencontre entre voisins, à une dislocation des tabous, mais qui est propice à d'aventureux dégels et à des reconsidérations cruelles. Et il y a une chose qui est particulièrement bien montrée, Marie-Noël l'a abordée, c'est la sottise décontractée du commandant de bord. Mmh. C'est une sottise qui est envahissante et nonchalante. Il est toujours très à l'aise, même pour dire des choses particulièrement intime, et ça, c'est dépeint de manière parfaitement convaincante. On peut rappeler que l'appartement comme décor central, ça avait été déjà utilisé dans la pièce qui avait été portée à l'écran, qui était Cuisine et dépendance, et puis dans le film de Roman Polanski, qui était Carnage. Maintenant, alors, le film n'est pas sans défaut non plus. La réalisation est quand même dénuée d'audace et fait du surplace. Cela fait quand même beaucoup théâtre filmé également. Bon, le fait que ce soit statique, mais pas seulement. La rupture de ton dans la dernière partie se révèle trop accusée, au risque de déséquilibrer une comédie qui était jusqu'alors assez débridée. Et puis, notre ami Dominique l'a peut-être dit de manière peut-être aventureuse, mais l'origine du malheur survenu en cours de route reste obscure. Mmh. Il y a un drame qui arrive un petit peu tard. On aimerait bien en connaître la cause. C'est à peine évoqué, et c'est dommage. Et puis, ça tarde discrètement à trouver ses marques, comme je l'ai dit. Et enfin, sur le plan musical, le générique d'ouverture à la guitare. Alors, ça lorgne manifestement vers Vladimir Kosma, et notamment son thème si réussi de Courage Fuyon, mais ça n'en a ni l'éclat, ni la para. Et alors, je dirais pour conclure que derrière ici, le libidineux de l'intrigue triomphe ici l'usure du couple, sans doute parce qu'en la circonstance, Je t'aime est à bout.
Voilà, merci beaucoup Bernard Mettioni. Nous passons tout de suite, si vous le voulez bien, au film assez trash, faut le dire, Drive Away Dolls. C'est Jamie, une jeune femme libre d'esprit qui essuie une énième rupture amoureuse, et Marianne, son amie pudique et réservée, qui souffre de frustration généralisée. Et elles sont en quête d'une bouffée d'air frais, et puis elles se lancent dans un... à cause d'une mallette, elles partent dans une sorte de road trip vers Tallahassee. On écoute la bande-annonce ou en partie.
La mallette, Santos.
Jamais de la vie.
Concours de body shop, donc on va te saler comme tu le mérites.
J'en ai ras le cul de l'amour, j'ai pas l'impression que ça convienne aux lesbiennes du 21e siècle.
Pas question que tu portes ça.
Je viens de sortir du boulot.
Moi j'arrive de Toledo et ça se voit pas pour autant.
Je suis pas là pour exhiber la marchandise.
Je quitte la ville.
Ça tombe bien parce que moi aussi, tu veux aller où toi?
Tallahassee en Floride. Ça fait longtemps que je suis pas heureuse.
Cette virée, on va la faire ensemble, mon petit cœur. On va se reprendre en main à quatre mains.
Curly Convoyage, votre référence pour la livraison de voitures en Pennsylvanie.
Ce cher Curly...
M'appelez pas Curly.
C'est pas votre nom?
Je m'appelle Curly, mais on se connaît pas. Pas de familiarité.
On vient pour la voiture.
Attendez, vous avez demandé une livraison à Tallahassee. Et là, ces deux gonzesses ont débarqué en disant qu'elles allaient à Tallahassee.
Dominique.
Oui, c'est un road movie complètement déjanté, sexuel et très violent. Un trois cadavres au compteur, dont un homme décapité. On retrouve un petit peu l'esprit des frères Cohen, mais là, il y en a un moins un, quoi. Et on le sent aussi parce que celui-là s'est défoulé dans quelque chose de parfois c'est drôle, insolent, avec une lesbienne active et une autre qui se laissera convaincre, avec une mystérieuse mallette dont je me garderai bien de vous dire ce qu'elle renferme.
Surtout.
Voilà, c'est rythmé, c'est ironique, c'est incongru, ça veut choquer. C'est aussi dans l'esprit de l'Amérique actuelle, qui peut être très puritaine et très libérée. Et on pense, j'ai tout de même retrouvé un petit peu l'esprit de 100% des frères Cohen qui étaient sur le crime, mais une fausse comme ça, qui va en s'exagérant. Non, ça part à 100 à l'heure, dans une histoire à dormir, à faire l'amour debout. Voilà, c'est un film qui dérange, qui est drôle, qui a là la qualité au moins de ne pas être trop long. Il dure 1h30, donc on n'a pas le temps de se lasser. Voilà, c'est un défoulement. C'est plutôt un film de défoulement, je dirais.
Marie-Noël, vous avez été choquée?
Choquée, non. Mais autant je trouve que Et plus si affinité s'extrait de la vulgarité initiale, autant Drive Away Dolls, si votre vraiment constamment de bout en bout, sans changer une seule fois de tonalité. Donc c'est des grosses blagues, des grosses farces. On avait, avouons que on avait retenu ce film à cause du nom de Ethan Cohen, oui. Évidemment, qui opère ici sans son frère Joël. Bon, avouons-le, c'est une erreur. C'est une erreur, mais ça prouve en tout cas que le comique beauf transcende la question du genre et que là, ce n'est plus du comique troupier, c'est du comique croupier. Et le militantisme LGBT a la même grossièreté énorme que le comique beauf le plus ordinaire.
Alors, voilà. Parlons de belles choses. Vendredi prochain, le 12, donc à 21h sur C-Star, il y aura un documentaire qui est, vous savez, qui a été produit par la plateforme Sedge, que nous aimons beaucoup. Et c'est un documentaire autour du spectacle Bernadette. Incroyable spectacle soutenu et coproduit par Gad Elmaleh, qui désormais traduit et qui est ce spectacle qui a été traduit dans je ne sais plus combien de langues. C'est une histoire incroyable, partie de Lourdes, et qui est passée par le Palais des Sports. Vous voulez nous en parler ?
Oui, parce que j'ai vu ce spectacle. C'est une comédie musicale, ouais. Formidable, hein, vraiment, ouais. De bout en bout, c'est étonnant. C'est en effet digne de Broadway, où ça a été présenté d'ailleurs, et remarquablement écrit, joué, chanté.
Ce qui est incroyable, c'est la puissance qui les dépasse tous, parce que ça a commencé par un spectacle à Lourdes. Bon, ils font un casting, et puis petit à petit, ça prend de l'ampleur, et maintenant, ça devient un triomphe mondial. Je vous propose d'écouter la prière de Bernadette, qui est toujours merveilleuse.
Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez aux dépourvus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme avec l'amour pour Oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. L'amour pour Oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame.
Alors la comédie musicale est formidable, mais le documentaire est formidable aussi parce qu'il raconte justement la naissance de ce spectacle et toute son histoire. La mise en scène, les comédiens, la production, en fait, tous les aspects du spectacle, on les voit dans les coulisses, en répétition, on les voit au Palais des Sports, où ils ont joué magnifiquement, ils y reviendront en juin prochain. Et le documentaire vaut la peine, c'est vraiment en soi, c'est raconter toute l'histoire d'un spectacle magnifique, d'une comédie musicale hors norme et extrêmement séduisante à tous égards.
Et la comédienne que nous avons entendu chanter là, Emma, est aussi extrêmement naturelle dans ce documentaire, parce que on la voit sidérée par le public, hein, parce que ce public du Palais des Sports, ils ont tous la chandelle allumée, et il faut soutenir ça, et c'était pas au départ, c'était pas forcément sa vocation, et le naturel avec lequel elle chante, et ils vivent tous avec un esprit de groupe, c'est très choral, hein,
oui,
et c'est très très réussi. Donc c'est sur C-Star vendredi prochain à 21h. Peut-être que ça vous donnera l'idée ou l'envie d'aller en famille au Palais des Sports au mois de juin.
Oui, il faut d'autant plus que ce spectacle extraordinaire a été retiré du pass culture.
Ah bon ?
Le croiriez-vous ?
Pourquoi ?
Pour absence de laïcité. Alors que c'est une Bernadette historique.
Mais oui.
Avant tout, c'est l'histoire d'une petite fille de France, pauvre, d'un coin perdu, et qui a eu une destinée exceptionnelle. Bon, ça parle à tout le monde.
Ben évidemment. Voilà, nous avons parlé de plusieurs films, de Sidonie au Japon, de Et plus si affinité, de... On n'en parle pas. Du film du frère Cohen.
Oui.
Je vous remercie Marie-Noël Tranchant, merci Dominique Borde, merci Bernard Mignoni, à qui nous souhaitons de bonnes vacances normandes. Demain, je recevrai Marie Balmary. C'est un événement. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.